Un soutien précieux, l'Association des maires de France a répondu aux maires de Calédonie pour les assurer de leur soutien, mais aussi trouver d'autres pistes de financement. L'UNC victime d'exactions, un agent de sécurité a été agressé et un bâtiment dégradé la nuit dernière. L'université déplore une atteinte grave à l'un des plus importants leviers de développement du pays. Une baisse d'activité constatée pour les cavistes. Si leur activité a un temps été en hausse après leur réouverture, la baisse de pouvoir d'achat des consommateurs se fait maintenant ressentir. Dans ce journal, nous reviendrons sur le secteur du BTP. Entre chantier de démolition et marché immobilier, le domaine est porteur de projets. Gardez votre imperméable à proximité, la Niña se rapproche. Elle est prévue pour le mois de novembre, mais sera plus courte et moins intense que les phénomènes des années précédentes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Le soutien de l'Association des maires de France aux communes calédoniennes. David Lisnard, le président de l'AMF, propose plusieurs pistes de financement aux associations de maires. Elisabeth Noir.
Et c'est la bonne surprise pour les présidents des deux associations de maires de Nouvelle-Calédonie qui avaient saisi conjointement David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, pour attirer son attention sur les difficultés de leur commune en raison de la crise financière consécutive aux violences insurrectionnelles. David Lessin leur a répondu en les assurant de son soutien, mais aussi et surtout en proposant plusieurs pistes pour trouver des financements pour les communes de Calédonie. C'est ce que nous dit Pascal Vittori, maire de Boulou-Paris et président de l'Association française des maires.
La demande des maires de Nouvelle-Calédonie, c'était d'abord un délai supplémentaire pour la réalisation des appels à projets signés avec l'État. Donc ce sont des opérations d'investissement. Donc on demandait est-ce qu'il y a un délai supplémentaire pour pouvoir les réaliser compte tenu des difficultés financières des communes. Ça portait donc sur 2024. L'autre demande portait sur les budgets 2025 alloués par l'État aux communes, donc la dotation globale de fonctionnement qui porte sur le budget de fonctionnement des communes. C'est les principales difficultés des communes en ce moment puisque les communes n'ont plus de trésorerie. La trésorerie, c'est ce qui sert à payer le quotidien, c'est-à-dire les salaires et les dépenses courantes. Et donc, on a demandé à l'État de compenser la défection de la Nouvelle-Calédonie sur ce budget 2025. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement le président Lisnard nous soutient dans nos demandes, mais en plus, il a fait travailler ses juristes et il a trouvé d'autres possibilités d'aider les communes de Nouvelle-Calédonie.
Dans son courrier, David Lisnard propose ainsi notamment de s'inspirer des mécanismes mis en place lors de la crise Covid avec un mécanisme de prélèvement sur recettes de l'État qui pourrait compenser les pertes de recettes des communes de Nouvelle-Calédonie.
Il envisage un système de fonds spécial pour venir en aide aux communes. Il envisage également, en Nouvelle-Calédonie, il y a un effet cliquet pour les communes qui fait que d'une année sur l'autre, les communes ne peuvent pas perdre des budgets, sauf si le budget de la Nouvelle-Calédonie elle-même a baissé de plus de 10%. Donc il propose de revoir cette règle pour que même quand la Nouvelle-Calédonie a des difficultés financières, les communes ne soient pas impactées. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est soutenu par les maires de France et qu'en plus, ils nous aident à trouver des solutions qu'on n'avait pas imaginées nous-mêmes pour sortir les communes de Nouvelle-Calédonie de la difficulté dans laquelle elles se trouvent.
C'est une bonne nouvelle pour les communes calédoniennes parce que l'Association des maires de France est très influente et les maires calédoniens ont également reçu le soutien du président du Sénat, Gérard Larcher, qui les a assurés qu'il interviendrait en leur faveur. À noter que pour des raisons financières, les maires de Nouvelle-Calédonie ne se rendront pas à Paris pour le congrès des maires en novembre, comme ils le font habituellement, mais à l'invitation de David Lisnard, ils interviendront en visioconférence pour informer leurs collègues sur la situation de la Nouvelle-Calédonie. Les maires qui espèrent également être associés aux discussions sur l'avenir qui pourraient être organisées dès le mois d'octobre à Paris.
Merci Elisabeth. Et c'est Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province Sud, qui sera demain midi votre invité dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur l'actualité provinciale, mais aussi plus largement sur l'actualité politique, plus de 4 mois après le début des émeutes. Gilles Brial, invité de Transparence, un rendez-vous à retrouver demain à midi, juste après notre édition de la mi-journée. Quelques exactions sont à signaler sur le territoire. Un hectare parti en fumée à la limite entre les secteurs de Nouméa et d'Umbéa. Vers 15h cet après-midi, les pompiers de Nouméa sont intervenus pour un feu de brousse à proximité du centre commercial Carrefour en direction de Normandie. Et dans le nord, à Conné, on signalera 2 feux de brousse qui ont été rapidement circonscrits dans l'après-midi. L'université de Nouvelle-Calédonie est également victime d'une tentative d'incendie criminel cette nuit. Vers 22h hier soir, un agent de sécurité du campus a été agressé. Les individus se sont ensuite attaqués au bâtiment des lettres, langues et sciences humaines. De départs de feu qui ont provoqué des dégâts matériels en 3 endroits du bâtiment. Des dégâts limités grâce à la réactivité des agents de l'UNC, de la société de surveillance et à l'intervention rapide des pompiers et des forces de l'ordre. Catherine Risse est la présidente de l'UNC.
On a eu un renforcement de la sécurisation du campus depuis le mois de mai et encore plus à l'approche et pendant le week-end du 24 septembre, du long week-end du 24 septembre. Donc des agents de sécurité qui tournent en permanence sur le campus. Donc un agent de sécurité qui a été caillassé, qui s'est fait agresser, qui a très vite pu appeler les personnels de l'université qui sont sur le campus puisqu'on a des gardiens qui résident avec leur famille sur le campus et qui ont pu aussi appeler les forces de l'ordre qui sont intervenues très rapidement. Les endroits qui ont été endommagés seront inaccessibles, mais c'est extrêmement localisé en fait. Ça ne coupe l'accès à aucun bureau et à aucune salle de cours. Donc c'est rassuré sur cette situation. Et bien sûr, tout le dispositif de sécurité qui est en place depuis des mois va être prolongé avec, on a bien vu son efficacité, puisque c'est parce qu'il y avait des gardiens et des vigiles qui étaient présents et qui ont pu intervenir extrêmement rapidement qu'on a évité des dégâts plus importants.
Dans un communiqué publié ce matin, la présidente de l'UNC a indiqué que ces exactions sont une atteinte grave à l'un des plus importants leviers de développement du pays. Les cours ont repris normalement à 13h. Et en bref, l'actualité politico-judiciaire. Hier avait lieu l'audience relais pour fixer la date du procès des cadres de Calédonie Ensemble. Du 12 au 16 mai 2025, Philippe Gomès, Philippe Michel et Martine Lagneau comparaîtront pour l'affaire dite des emplois fictifs au sein de la communauté wallisienne à la province sud entre 2014 et 2018. Ils sont mis en examen pour détournement de fonds.
Vous écoutez Info Soir, il est 17h52.
Le directeur de cabinet du haut-commissaire Théophile Delassus était notre invité du matin à 7h30. Il est notamment revenu sur ses restrictions de vente d'alcool et il les a justifiées.
Ça porte très clairement ses fruits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était fin mai ou début juin. Nous avions réouvert l'alcool pendant quelques jours. Nous avions vu immédiatement les effets en matière d'ordre public. Donc, une fois que ce 24 septembre est passé, le haut-commissaire a décidé de réouvrir un petit peu la vente d'alcool, mais de rester sur un cadre assez serré. Nous allons travailler avec les cavistes, avec les entreprises productrices d'alcool pour adapter un peu plus ces mesures dans les jours et les semaines à venir. Néanmoins, je le redis, l'alcool fait partie des sujets sur lesquels il faut que tout le monde se mette autour d'une table et que l'on prenne enfin des décisions. C'est absolument central et crucial. Ça fait des années qu'on en parle de ce sujet de l'alcool. On en a vu les effets pendant cette crise. Et il faut maintenant que l'on amène des solutions. L'État est prêt à faire sa part du chemin, mais je rappelle que la santé publique n'est pas sa compétence. Il n'a pas la plupart des outils pour répondre aux questions posées par ce sujet. Et il faut maintenant que les collectivités, que l'ensemble des acteurs trouvent des solutions urgentes qui nous permettront ainsi de réouvrir la vente d'alcool de façon beaucoup plus large.
Pour rappel, la vente d'alcool est autorisée au sein des établissements, bars et restaurants pour une consommation sur place. En ce qui concerne les cavistes, la vente est autorisée mais limitée à 2 litres par jour et par personne. Pour les boissons n'excédant pas 22 degrés ou 1 litre pour les alcools forts, la consommation sur la voie publique reste interdite. En parlant des cavistes, quelle est leur situation après ce long week-end du 24 septembre? Depuis 4 mois, leur chiffre d'affaires dépend entièrement des mesures restrictives mises en place quant à la vente d'alcool. Après leur prolongation, ils connaissent cette semaine une baisse de leur activité, Charlotte Coulson.
Une activité qui avait d'abord été en hausse lors de la réouverture des cavistes. Après un long week-end de fermeture, les rayons étaient beaucoup plus vides cette semaine. Selon Cédric Poulmer, gérant de Terre de Vigne situé à Lanzvata, la baisse du pouvoir d'achat des Calédoniens y est pour quelque chose. Quant à Pierre Guiraud, directeur du pavillon des vins au Motorpool, les consommateurs se sont, selon lui, habitués à ces mesures restrictives et ne sont donc plus aussi pressés d'acheter.
La semaine a été plutôt calme. Je ne sais pas si les gens ont fait des réserves en prévision ou si le pouvoir d'achat commence à baisser sérieusement. En tout cas, oui, on le ressent. Oui. J'ai l'impression qu'on commence à creuser le trou, en fait, que l'économie va mal et que, effectivement, le pouvoir d'achat baisse un petit peu. Donc, c'est sûr qu'on va se concentrer sur l'essentiel et on va laisser le futile un petit peu de côté. Donc, je pense qu'on est en train de le ressentir. Je pense qu'on est en train d'amorcer le creux de vague.
Les gens sont moins dans le rush, ils ont pris l'habitude d'anticiper pour la fermeture du vendredi midi. Maintenant que le 24 septembre est passé, peut-être qu'on va rentrer un peu dans l'ordre des choses, retrouver des habitudes commerciales normales. Dans une conjoncture difficile avec des pouvoirs d'achat qui vont être en baisse, des gens qui partent, forcément on n'est pas optimiste. Maintenant que l'activité se régule et que les clients prennent des habitudes, même en période de restriction ou sur des horaires particuliers, oui, ça, les gens vont le faire, oui.
Une semaine donc plutôt calme pour ces cavistes. Et du côté des consommateurs, ils le disent clairement, la priorité n'est plus à l'achat d'alcool.
Oui, je dépense moins dans l'alcool, c'est sûr. Bah, parce que c'est souvent fermé. J'ai gardé mon emploi, donc j'ai pas de problème financier pour le moment. Mais c'est sûr qu'on dépense moins son argent parce qu'on n'a pas de visuel sur l'avenir.
Je m'attendais à avoir des queues devant les magasins distribuant des boissons alcoolisées. Et depuis ce matin, j'ai fait deux magasins pour d'autres raisons. Et à chaque fois, au rayon des vins, il n'y avait personne. Je ne pensais pas. Je pensais que mon petit verre de vin tous les jours à table, c'était sympa. Mais je me rends compte maintenant que je peux très bien m'en passer. Et je suis vraiment désolée pour les personnes de la profession parce que maintenant, je crois qu'on n'achètera plus que ce dont on a vraiment besoin. Je crois qu'on est en train d'arriver dans cette crise horrible qui va nous toucher dans les semaines qui viennent.
Et pour rappel, les restrictions quant à la vente d'alcool ont été prolongées jusqu'au dimanche 29 septembre inclus.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, le couvre-feu est en place depuis la mi-mai. Selon vous, doit-il encore être prolongé au-delà du mois de septembre? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 98% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent approuver la décision du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de porter plainte contre le député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, qui a mis en cause l'action des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Ils ne sont que 2% à dire qu'ils ne l'approuvent pas. 17h56, on va marquer une première pause dans ce journal avant de voir tout ce qui concerne le secteur du BTP. À tout de suite.
Besoin d'une pause gourmande? Faites escale au 140 promenade Roger Larocque. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, pause sucrée ou after work. Venez découvrir nos nouvelles saveurs et créations à l'escale. Nous vous accueillons tous les jours de 6h30 à 20h30 pour tous vos instants. Réservez dès maintenant au 23 01 30 et retrouvez plus d'infos sur notre page Facebook Château Royal.
Chez Sima Quincaillerie, à partir du 1er septembre, c'est le mois du sans-fil Makita. La perceuse visseuse à percussion 18 volts EDXT Makita est vendue sans batterie à 43 900 francs, dans la limite des stocks disponibles. Découvrez toutes nos offres Makita sur simac.nc.
À Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Kateviti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Léana Colombo.
Plus de 4 mois après le début des émeutes, les chantiers de démolition ont commencé pour plusieurs infrastructures ou entreprises détruites ou saccagées. Ce midi, les Jeudis de l'économie se sont intéressés au marché de la démolition, Elisabeth.
Existe-t-il un marché de la démolition? Quelles sont les contraintes de ce type d'activité? Et quelles sont les entreprises qui peuvent s'en charger? Nous en avons parlé avec nos invités qui nous ont détaillé les étapes d'un chantier de démolition. Alors que 700 bâtiments ont été détruits par le feu pendant les violences insurrectionnelles, dont quelques 500 détruits à 100%. Qui dit démolition, déconstruction ou démantèlement dit aussi gestion des déchets, notamment tri entre les déchets qui peuvent être revalorisés, ceux qui peuvent être traités, et bien sûr les déchets dangereux. Tout commence en fait par un état des lieux, explique Franck Olivier de la société Démolition des Amiantages NC.
Après les sinistres, on est susceptible d'aller visiter sur place. On se rend compte aussi du malheur de ce que les gens ont subi. On rencontre les exploitants, on rencontre les propriétaires. Et on fait un état des lieux en estimant, sans avoir des premiers diagnostics, un volume de travail en heures, en volume de déchets aussi, qui a aussi une conséquence non négligeable sur le prix des déconstructions. Et ensuite, on établit un devis, on demande aussi des préconisations, comme le diagnostic amiante en amont de la déconstruction. Et après, il y a tous les experts qui interviennent pour la partie diagnostic béton, savoir si on maintient un certain mur, certaines poutres, un poteau, pour définir exactement quel est le cahier des charges qui va être mis en place sur la démolition.
Et l'une des étapes importantes est aussi bien sûr celle des assurances qui prennent plus ou moins de temps. Mais les opérations de démolition ont été sérieusement encadrées et codifiées par la province sud. Il y a des sociétés spécialisées, indique Hiro Mataliano de l'entreprise EMC Recyclage, mais d'autres sociétés peuvent partager ce marché.
C'est quand même mieux de faire appel à des sociétés qui sont spécialisées, c'est-à-dire qu'elles ont le matériel, les compétences et le savoir-faire. Maintenant, on ne dit pas qu'on est les seuls et uniques à pouvoir le faire. Bien sûr que certaines entreprises du BTP peuvent s'y mettre et on peut comprendre dans la situation actuelle que tout le monde a besoin de travailler. Donc ça, c'est des choses qu'on comprend parfaitement. Mais c'est pour ça que la délibération faite par la province sud encadre les choses pour que ça soit fait de manière respectueuse de l'environnement. Donc toutes les réglementations, toutes les lois s'appliquent. Plus cette délibération qui met le point en particulier sur la gestion des déchets, sachant qu'on arrive quand même dans des bâtiments sinistrés qui peuvent avoir contenu certains déchets qui, après avoir été incendiés, deviennent polluants. Donc il y a quand même une méthodologie de travail à appliquer et il faut y veiller, sachant que le propriétaire reste de toute façon responsable de ce qui se passe sur son site.
Un marché de la démolition qui a de toute façon en perspective la reconstruction. parce qu'il y a aussi un aspect humain dans ce travail, tient à souligner Nadir Boufnesh, le président du cluster à Cotrède.
À chaque fois quand même qu'à Cotrède a participé à une visite de chantier dans des bâtiments qui ont été incendiés ou détruits, c'est vrai que c'est avec beaucoup de tristesse, hein, parce qu'avant d'aller voir les clients, moi je sais que j'avais les larmes aux yeux à des moments, parce que les gens avaient travaillé pendant 40 ans, 50 ans sur des bâtiments, et quand tu rentres, ils nous expliquent, ben là j'ai posé mon petit bas, c'est moi qui a fait ci, puis qu'ils n'ont plus rien, c'était très dur. Et même ensuite, faire un devis pour ces gens-là, ben c'est pas facile, parce que c'est prendre de l'argent à des gens qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu. Et c'est vrai que moi je tenais d'ailleurs un gros soutien à tous ces gens qui ont perdu tout, et qui ont la volonté de reconstruire. Il faut les encourager à reconstruire et puis ben, on doit être solidaire dans cette phase reconstruction.
Un jeudi de l'économie consacré au marché de la démolition à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Restons dans le domaine du BTP. Le marché de l'immobilier calédonien est en grande difficulté. Ce n'est pas nouveau, Sarah Mégerie, mais l'avenir de la profession est entre les mains de la jeunesse.
En 2023, les transactions immobilières ont chuté de 17% et les émeutes n'ont fait qu'accentuer le repli. Selon un rapport de l'ISEE, la baisse en 2024 est d'environ 50%, mais les futurs acteurs de l'immobilier gardent espoir et se donnent les moyens de réussir. Ce matin, les élèves de première année de BTS professions immobilières du lycée Saint-Pierre Chanel de la Conception étaient sur le terrain. Grâce à l'agence Immo, les 10 étudiantes ont pu analyser un bien locatif et se familiariser avec les aspects techniques et réglementaires du processus de vente et de location. Antoine Azevedo de l'agence Immo.
On a la chance d'avoir un appartement qui nous a été prêté pour que les élèves découvrent en fait le métier. Ils vont se retrouver immergés dans cet appartement qui fait tout de même 250 mètres carrés. Ils vont profiter de faire une fiche technique, découvrir les avantages, les inconvénients de ces appartements et préparer une visite avec des clients potentiels. L'objectif, c'est qu'elles rentrent directement dans le métier. Il est important de prendre un petit peu le temps avec elles pour qu'elles fassent le tour, qu'elles s'imprègnent de ce super métier. On a la chance d'avoir une belle relève qui arrive. On a un panel cosmopolite de la population calédonienne et qui a vraiment, vraiment envie de s'immerger dans ce métier.
Valencia et Eva sont toutes les deux étudiantes en première année de BTS professions immobilières au lycée Saint-Pierre Chanel de la Conception. Pour elles, la théorie est une partie importante de leur formation, mais le côté théorique l'est tout autant.
Aujourd'hui, on est là pour faire une estimation d'un bien à louer. On fait un état des lieux donc d'entrée de bien dans l'agence.
C'est la première fois qu'on fait ça et donc du coup on découvre et ça nous permet en fait de faire quelque chose de concret. En cours on voit tout ce qui est théorique, donc nos professeurs nous apprennent en fait le domaine immobilier, le métier d'agent immobilier et au final grâce à des gens comme Antoine on peut au cours de l'année voir réellement le milieu professionnel.
La formation BTS Professions Immobilières au lycée Saint-Pierre Chanel de la Conception est accessible directement via la plateforme Parcoursup.
L'actualité dans la région, la Chine a tiré un missile balistique intercontinental au-dessus du Pacifique. Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a réagi à cet essai. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
D'après le ministère chinois de la Défense, ce tir a été effectué depuis l'île de Hainan, en direction du Pacifique. Il a précisé que le missile, qui, je cite, était équipé d'une ogive factice d'entraînement, est tombé avec précision dans la zone maritime prédéterminée. Selon les médias tahitiens, le dit missile est tombé en mer non loin de la zone économique exclusive de la Polynésie française, quelques 400 km au nord de Tuamotu, et à moins de 800 km à l'ouest de Nuku'iwa, la plus grande île des Marquises. C'est une préoccupation, a indiqué le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson. J'ai envoyé un message au haut-commissaire et au président de la République pour avoir leur opinion sur ce tir, a-t-il ajouté. Nous ne sommes l'ennemi de personne, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
J'ajoute que ce tir a suscité des protestations de la part d'autres pays de la région, comme le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore Taïwan, inquiets du renforcement du potentiel militaire chinois. Et on apprend cette fin d'après-midi que selon le Haut-Commissariat de la Polynésie française, la France, tout comme les États-Unis, avaient été notifiés de cet essai. 18h05, deuxième pause dans ce journal, avant de passer à la météo et le retour de la Niña et au sport.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Saviez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Une Niña courte et peu intense, mais une Niña quand même. C'est ce qu'annonce Météo France Nouvelle-Calédonie dès le mois de novembre, Charlotte.
Oui, un retour des pluies qui va faire du bien à la Calédonie. En effet, voilà déjà 6 mois que la sécheresse est présente sur le territoire, avec des températures plus élevées que la normale, d'environ 1 degré supplémentaire en moyenne. Une sécheresse accompagnée d'alizés secs qui favorise la propagation des incendies, comme nous avons pu le constater ces derniers temps dans le nord. Et des conditions qui devraient encore perdurer quelques temps, avec un mois d'octobre dit de transition, comme l'explique Thomas Abinoun, météorologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
En septembre, on est encore dans un mois très sec. Hein, et donc, on sort d'ailleurs de 6 mois qui ont été excessivement secs, avec 40% de déficit de pluie observé sur ces 6 mois. Et on s'attend, avec la survenue de la Niña, qui va apparaître à partir du mois de novembre à peu près, à avoir un mois d'octobre, effectivement, qui sera un mois de transition en termes de pluie. Et donc un retour progressif des pluies en octobre. Pour l'instant, les prévisions sont incertaines sur le retour des pluies. Donc on n'est pas capable de se prononcer sur les pluies qu'on aura en octobre. On sait que ça va être un peu le mois de bascule entre ces conditions très sèches qu'on a connues au cours des mois précédents et puis les conditions plus humides qu'on attend à partir de novembre.
Mais attention, cette Niña sera différente de celle connue entre 2020 et 2023. Elle sera plus courte et moins intense, mais toujours avec des températures et des pluies supérieures aux normales de saison. Toutefois, Thomas Abinoun estime qu'il ne devrait pas y avoir de pluie record ni de trop fortes inondations à prévoir.
Du fait de cette intensité moindre, on s'attend aussi à avoir des pluies moins conséquentes cet été qu'on a connu au cours du précédent épisode de la Niña. On n'est pas à l'abri d'avoir des dépressions tropicales, et d'ailleurs ça va être la saison, donc qui peuvent provoquer ponctuellement des inondations. On peut avoir aussi, sous des phénomènes orageux, des inondations ponctuelles ou localisées. Mais globalement, si on regarde sur l'ensemble de la saison chaude, on peut dire qu'on devrait avoir des pluies bien moindres que ce qu'on a connu par le passé. Ouais.
Et le réchauffement climatique a bien entendu un impact certain sur ces phénomènes météorologiques au fil des ans. Il est donc difficile de les prévoir, mais selon Thomas Abinoun, les prochains El Niño et La Niña seront plus intenses.
On ne s'attend pas à avoir une variation dans la fréquence ou dans la durée des épisodes El Niño ou La Niña. Par contre, ce qu'on s'attend, c'est d'avoir des épisodes qui seront de plus en plus intenses. C'est-à-dire, quand on aura des El Niño en Calédonie, il devrait être de plus en plus sec. Et on devrait subir donc des conditions de sécheresse de plus en plus intenses à chaque fois. Et à l'inverse, quand on aura des épisodes de La Niña, on s'attend à avoir des épisodes de plus en plus humides. Donc c'est surtout ça, la marque du changement climatique sur El Niño et La Niña, c'est l'intensité des phénomènes. Mais par contre, l'alternance et la durée des phénomènes devraient persister malgré le changement climatique.
Pour rappel, lors de la formation d'un épisode La Niña, le renforcement des alizés engendre des eaux plus chaudes, des températures plus élevées et des pluies plus abondantes.
Notez que demain, nous reparlerons de l'arrivée de La Niña avec le météorologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie, Thomas Abinoun. Il sera notre invité du matin demain à 7h30. Nous reviendrons également sur le bilan des pluies et des températures des mois passés avant de parler des prévisions attendues pour les mois à venir. Un mot de sport pour clôturer notre journal, avec du football pour commencer sur le territoire et le trophée du Grand Nouméa. La Swetch continue d'impressionner. Hier soir, les joueurs de l'IFU ont battu Dumbéa sur le score de 4-3. C'est la 4e victoire en 6 rencontres pour le Wetch qui sont pour le moment sur le podium avec Magenta et Horizon Sport. Horizon Sport qui a débuté à 18h son match contre l'AS Mondor. Et également du basket 3-3. Les sélections calédoniennes des moins de 23 ans sont en Australie. Les sélections U23 féminines et masculines sont sur la Gold Coast jusqu'à la fin de la semaine pour participer à un tournoi océanien. Une compétition de 3-3 couplée à un programme de développement destiné aux joueurs, entraîneurs et arbitres. Hier, les filles ont affronté en amical les Fidji. Les garçons, eux, ont joué contre les Samoa américaines et l'Australie. 18h10, on passe tout de suite à la météo.
la météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Bon Nicolas, on a parlé un petit peu météo avant avec la Nina, on a parlé des pluies, mais est-ce que là, pour le moment, il va y avoir du soleil ?
Un petit peu. Sur la façade est, cette nuit, de toute façon, les nuages s'agglutineront et donneront des averses éparses et faibles. Ailleurs, le temps restera sec. Le vent s'orientera est à nord-est entre 10 et 15 nœuds. Près de la pointe nord, il sera accéléré entre 15 et 20 nœuds. Sur l'ouest, il mollira entre 5 et 10 nœuds. Les températures minimales seront comprises entre 15 et 20 degrés dans l'intérieur. Sur l'ouest, Lifou et Marais, et entre 19 et 23 degrés ailleurs. Demain matin, le soleil dominera, la bonne nouvelle, devenant parfois voilé par l'arrivée des nuages élevés, des nuages accompagnés de rares averses circuleront en loyauté sur l'est. Le vent d'est nord-est soufflera autour de 10 nœuds, voire sur la pointe nord-est et Belette proche de 15 nœuds. Sur l'ouest, le vent sera d'abord faible, puis les brises s'établiront entre 5 et 10 nœuds.